Radio Biz.
Le retour de Kiss dimanche à compter de 15h.
Salut tout le monde, bienvenue dans le spécial Kiss Alive. Donc, on va y aller vraiment là aujourd'hui. L'album au complet, sans arrêt, je vais pouvoir intervenir assez souvent durant l'album pour vous raconter toutes sortes de petites choses dans l'histoire de Kiss. Alors, le tout est sur Radio Biz et RadioNostalgie.ca en plus. Les deux radios. Donc, une émission qui va vraiment bien pour les deux radios. Et puis, c'est ça. Donc, on parle de l'album Alive, un album qui a été très important. Et l'enregistrement, et ainsi de suite, des anecdotes ici. Donc, c'est l'album qui va vraiment propulser Kiss au sommet de la planète. Hein, parce que jusqu'à l'album Alive, Kiss n'était pas si gros que ça. Même s'ils ont sorti 3 albums, même s'ils ont des grands classiques, ça veut absolument rien dire. Donc, la première chanson du concert, ben, c'est avec Deuce. Et Deuce, qui est une chanson assez macho, comme on peut dire. Là, hein? Ça sortirait aujourd'hui, on dirait que c'est misogyne. Donc, c'est ça. Et Gene ne se gêne pas dans la chanson, ça c'est sûr. On va écouter un petit bout de Deuce. On entend Ace, hein, c'est là où l'album où Ace va vraiment ressortir dans le groupe. Hein. Il se laisse aller vraiment dans l'album. C'est sûr que c'est pas un gars qui a une grande improvisation et qui se plante un peu comme Jimmy Page ou Richie Blackmore ou Ted Nugent à l'époque. Mais sauf qu'il rend vraiment identifiable le sens mélodique et la technique est plus qu'honorable. Qui va faire de lui un des meilleurs guitaristes au monde. C'est vraiment la superstar de l'album, Ace Frehley. Et bien sûr, tout le monde aussi, même Peter, qui a été très fort aussi, Jane et Paul. Les quatre aussi, mais c'est surtout Ace, on écoute un petit peu Ace. Bien sûr, à la fin, ils ont toujours une chorégraphie où Jane, Paul et Ace vont faire des mouvements de tête et ainsi de suite. Bien entendu, Paul qui jase beaucoup. Et vous savez, dans la pochette de l'album, on voit en arrière deux gars avec une banderole de Kiss, avec de la peinture qu'ils ont faite sur une banderole. On trouve ça bien cute. On dit, ah ben, ils ont fait ça pendant un concert, sûrement peut-être à Détroit, lorsqu'ils ont enregistré. Oui, c'était à Détroit au Cobo Hall, mais sauf que ce n'était pas un concert de Kiss. La foule qu'on voit en arrière, là, c'est pas une foule de Kiss, c'est un concert de Joan Baez. C'est carrément, là, Joan Baez, c'est un concert d'elle qu'il y avait eu ce soir-là, mais c'est pas le public de Kiss qu'on voit en arrière, là, tu sais. Et longtemps, on a toujours dit, on va regarder les fumeux de potes et ainsi de suite. Mais c'est un trucage qu'on a fait avec deux fans de Kiss et leur banderole. Mais, comme je vous dis, c'était pas un show de Kiss qu'on voyait en arrière, là, tu sais. C'est ce qui fait encore, une fois, la magie de cet album-là, qui est assez incroyable, et aussi d'autres choses qu'on va pouvoir parler durant le spécial Kiss Alive. Ce qui joue en ce moment, c'est Strutter, un autre extrait de l'album éponyme. Encore une fois, le talent d'Ace Frehley. Oui, la chanson, au début, ça s'était supposé d'être Stanley de Pirate. Qu'on voulait un peu taquiner Paul avec ça. Et la chanson est inspirée par les belles filles de New York, avec leurs vêtements sexy et ainsi de suite. C'est vraiment de là vient l'inspiration de la pièce, ce soir-là, vraiment sur les New Yorkaises. Donc, c'est déjà la chanson numéro 2. Et là, ben, cette fois, c'est avec... Hotter Than Hell, la pièce, le gros, l'album Hotter Than Hell, Gotta Choose, qu'on va écouter un petit peu. Ça, c'est une des chansons préférées à la vie de Paul Stanley, Gotta Choose. C'est vrai qu'elle est vraiment bonne, surtout en show, là. Et elle est inspirée un peu d'une pièce, c'est 99 and Half de Wilson Pickett. Et il l'avait entendu un soir lorsqu'il y avait un concert des Vanilla Fudge. Et dans le riff, là, ça ressemble un petit peu... Le riff ressemble beaucoup à la pièce 99 and Half, justement, qui a été faite ce soir-là par... Vanilla Fudge, qui eux, ils ont toujours été reconnus à faire des covers, dans le fond. Donc, Gotta Choose, qui est vraiment une des pièces favorites de Paul Stanley. On va rester avec l'album Hotter Than Hell maintenant pour la chanson numéro 4 qui est la pièce titre Hotter Than Hell. Et il y a beaucoup de caractères japonais qu'on retrouve hein, sur la pochette. Et dans le coin supérieur droit de la pochette, on voit bon, ce qui ça signifie le cri de l'enfer. Yes. Donc c'est vraiment Hotter Than Hell qui va devenir une des grosses pièces de l'album. Et justement, on va laisser un petit peu Paul jaser. Va nous présenter Hotter Than Hell.
We're gonna get this place hotter than hell. Come on. She looks good, she looks
Et Hotter Than Hell, oui, c'est pas les cris de l'enfer, ça veut dire, mais plutôt plus chaud que l'enfer. Donc, et on retrouve dans la pochette des petits mémos que les gars ont fait. Ben, il y a Gene, lui, qui écrit un petit mémo à ses victimes. Il y a Ace qui écrit un petit mémo aux habitants de la Terre. Il y a Paul qui écrit un petit mémo sur la gente féminine, sur les madames, sur les filles. Et Peter, lui, il écrit un petit mot pour les chats. Je pense tout de suite au film Kiss Meets Phantom of the Park, un film que Kiss avait fait en 1978. Et c'est des robots qui ont décidé de prendre la place de Kiss. C'est des faux Kiss. Et parce que là, les gars de Kiss sont prisonniers. Et les gars, ben, au lieu de chanter Hot, Hot, Hotter Than Hell, eux autres, c'est Rip, Rip, Rip and Destroy. Là, les robots ne savent pas jouer du tout la musique. Là, t'as la foule qui eut. Bien entendu, Kiss qui vont revenir sur scène à un moment donné, se battre contre les robots pour détruire les robots. Et là, ben, ils embarquent et là, c'est là qu'ils vont faire Rock and Roll All Night. Un petit peu de Ace encore. Maintenant, on sort la hose. Oui, Firehouse. Ça a été vraiment là, le premier hit là, que le groupe avait sorti comme premier vrai single. Ça n'a pas été un énorme single qui a eu beaucoup de succès. Mais lorsqu'on avait une première chanson que jouait dans les stations de radio new-yorkaises et aussi à Détroit, ben c'est Firehouse qui a été vraiment là, comme premier single officiel. Mais le son était tellement mauvais. Hein. Dans les trois premiers albums, là, le groupe là, était vraiment là, à petit budget. Et c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on écoute, même dans Hot Chicken Hill, là, c'est très difficile de reconnaître la voix de Paul et de Gene, là, t'sais, c'est vraiment très difficile parce qu'on se dit que c'est d'autres mondes qui chantent, là, t'sais, mais c'est ça. Faut dire aussi que l'album Alive, qui est sorti en 1975, va devenir l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Mais là, je vais répéter, oui, j'ai oublié un petit détail. L'album double le plus vendu de toute l'histoire de la musique. Et il sera détrôné seulement qu'au début des années 80 par l'album Pink Floyd The Wall. Mais pendant 5-6 ans, ben, ça sera l'album Kiss Alive qui va devenir l'album double le plus vendu de tous les temps. Alors ça, c'est encore plus que Dark Side. Malgré que dans les 25, il y avait Dark Side qui était très vendu. Faut dire qu'à travers de ça, on a eu l'album, à un moment donné, c'était l'album le plus vendu de l'histoire avec Rumors de Fleetwood Mac. Faut pas oublier Led Zeppelin 4, les Beatles, les Elvis, les albums d'Elvis. Et malgré tout ça, ben Kiss a réussi. C'était tellement que c'est big, cet album-là. Là, c'est un album mythique, hein. Et c'est vraiment par ça, là, c'est pas pour rien, là. C'est vraiment, quand on parle de l'album live, l'album des albums, c'est vraiment, là, cet album-là, l'album Alive de Kiss. Et je dis pas ça pour être chauvin. Et c'est la raison pour laquelle, que quand on s'est dit Tabarouette, c'est le double album le plus vendu de tous les temps. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de refaire la même chose avec un Alive 2, qui a eu beaucoup de succès aussi. Mais il n'a pas été là, au sommet comme a été Alive, parce que ça a été vraiment un grand classique. Là. Ça a été vraiment fou. Là. Et c'est pas pour rien, aujourd'hui, on rend hommage à cet album-là. Et à cette époque-là, oui, il y avait Peter Frampton qui avait sorti un album live, qui l'avait vraiment mis sur les maps, sur la map, parce que lui, de son côté, ben, sa musique pognait pas. Et lorsqu'il était avec son album live, Frampton Comes Alive, et c'est là que ça a explosé sa carrière. Donc la mode des chansons, des single lives, est vraiment devenue à la mode à partir de Kiss, l'album Alive avec Rock and Roll All Night. Et là on a la petite sirène de pompier de Firehouse. Gene Simmons et sa basse. Yes, du grand Gene Simmons. Ouais. On vient de terminer la face A du disque 1. On arrive à la face B du disque 1. Et là, on retourne, yes, dans l'album éponyme et Nothing to Lose. Dans la version originale de l'album éponyme, Il y a Bruce Foster, ça c'est lui qui joue du piano. Ça sera la première fois qu'il y aura un membre non Kiss qui va être enregistré dans une chanson. Nothing to Lose, qui on devait la sortir comme single au lieu de Firehouse, et finalement on s'est retenu, mais ça devient également un grand classique de Kiss. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette chanson-là? De quoi ça parle? Ben, c'est une chanson que Gene raconte avec sa blonde de l'époque, le sexe anal du Nothing to Lose. Ouais, donc c'est le sexe anal qu'il pratiquait avec son ex-blonde à l'époque. Donc, si vous voulez savoir de quoi raconte Nothing to Lose, c'est pas là, hein, let's go, hein, sois courageux. Oui, t'as rien à perdre. Non, c'est pas ça pas en tout. Non, c'est le sexe anal avec Gene Simmons. Donc, pour ce qui est des concerts, ça a été pris dans 4 concerts. Un à Wildwood, au New Jersey. Un autre qui était à Detroit, Michigan. À Cleveland, Ohio. Et aussi à Davenport, à Illinois. Et le tout a été... Iowa, plutôt. Et le tout a été enregistré dans le studio à New York. Mais c'est 4 concerts différents qui ont été pris dans l'album Alive. C'est pas tout à la même place, là. Et on a enregistré d'une façon, là, parce que là, c'était comme... Tu sais, c'était du jamais vu un peu dans la musique, là, tu sais. Alors, on se dit, bon, ben, comment est-ce qu'on va faire ça? On a pris les enregistrements et des bouts, on entend la foule et on doit monter le son de la foule parce que le son de la foule, on ne l'entendait pas assez dans l'enregistrement. C'était pas vraiment évident. Donc, c'était vraiment, là, c'était vraiment une nouvelle... C'était avant-gardiste en même temps que les gars faisaient, là, tu sais. Et là, ben, est-ce que si on commande Love Me... ça, c'est à quelqu'un qui a... À quelqu'un qui a de la façon de devenir meilleur, qu'on raconte un peu. C'est ce qu'on raconte un peu à Commande 9000. C'est sûr que, tu sais, bientôt, je vais t'aimer. Ça, en même temps, ça veut dire ça, mais c'est très, très, très... Kiss font souvent des chansons très, très, très dans ce style parabole, hein? C'est un mélange de... En même temps, cette chanson-là, c'est un petit mélange de rock et de pop avec des paroles... sexuellement vraiment là, subjective, là, tu sais. Et aussi dans les shows, à cette époque-là, c'était une des favorites des fans de Kiss. Et aussi, en même temps, ça a été une chanson de danseuse nue qui a été vraiment là, assez populaire, oui. Donc, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Command and Love Me? Vite comme ça, ben c'est ça, c'est un des chansons les plus aimées. Et c'est ça, et le couplet aussi qui est vraiment... et le refrain. Bref, c'est toute une chanson. Donc, extrait de Dress Up to Kill. Donc, du Come On Love Me. Puis après ça, c'est une chanson écrite par Ace. Come on. Donc, Come On and Love Me, yes. On retourne à l'album Hydrogen Hill cette fois. Et cette chanson-là, oui, Ace va faire, parce que Ace ne chantait pas encore, hein. À ce moment-là, Ace pratiquait, faisait des cours de chant, mais c'était pas lui, il ne chantait pas, il faisait du back vocal. C'est lui qu'on va entendre dans Parasite, le refrain, là, Parasite, ben, bon, ben ça, c'est lui qu'on va entendre. Mais c'est ça, donc, là, c'est plus Jane, Paul qu'on entend plutôt. Et puis, c'est ça. Mais sauf que c'est une chanson qui est vraiment là, 100% écrite par Ace Frehley. On va écouter. Là-dessus, il se laisse aller aussi la guitare. Là. Il y en a qui veulent savoir d'où ce que les gars se sont inspirés un peu dans leur maquillage. Ben, j'aurai une petite réponse pour vous. C'est le kabuki. Le kabuki qui est une forme de théâtre traditionnel japonaise qui a vu le jour au 17e siècle, là, c'est pas avant. Mais c'est ça, c'est vraiment inspiré par les maquillages japonaises, le maquillage japonais. Donc, ce qu'on appelle le kabuki, K-A. B-U-K-I. Si vous tapez ça sur votre ordinateur, là, si vous googlez ça, vous allez voir le style de maquillage. Et c'est vraiment de deux autres que Kiss s'est vraiment là, inspiré dans leur style de maquillage et qui ont inspiré tout le reste des groupes hard rock. Puis là, ben, je vous parlais de Ace. On va écouter Ace. Puis là, il y a son solo qui s'en vient. Maintenant, on va y aller avec une pièce qui a été écrite par Gene Simmons et Steve Coronel. Qui est-il? C'est le premier batteur qu'avait à l'époque les Wicked Bester avant Peter Criss. Donc, il a toujours sa redevance, lui, sur la pièce She. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'était le premier batteur qu'il avait, mais il n'a jamais été dans Kiss. Là. C'est vraiment Peter Criss, le premier batteur de Kiss. Mais lui, qui était là à l'époque... De Wicked Lester là. Donc c'est une autre chanson reliée au sexe et dans cette pièce-là, dans les années 70, Ace avait une bombe fumigène dans sa guitare et lorsqu'il faisait son solo, ben, ça l'explosait et puis c'était vraiment assez fun à voir et ça a été une grande force de Kiss aussi, là, le visuel, les pyrotechniques et ainsi de suite. Donc oui, ça rentre dans le blues un petit peu, hein. Il y a une son bluesé qu'on retrouve dans She. Et c'est devenu un des grands classiques, une des préférées aussi. Donc la pièce She avec Kiss. Vous écoutez l'album Alive, mon nom est Eric, sur Radio Biz et RadioNostalgie.ca. Donc on fait un gros spécial sur l'album mythique de Kiss de 1975. We'll be right back. Là, on a une portion instrumentale qui arrive et ça donne des frissons. Vous savez, à cette époque-là, Kiss était quand même mal vu hein, par bien des gens. Oui, il y avait les maires contre Kiss. Il y avait des gens qui priaient Dieu. Et même encore dans les années 80, ça se faisait. On priait Dieu lorsque Kiss allait à un concert dans une ville. On se dit ça, c'est le mal, c'est les démons. Et en même temps aussi, Kiss, retenez bien ce que je vais dire et attachez vos tuques, si vous en avez plusieurs. Ils ont été expulsés de plusieurs tournées par des groupes qui n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas de jouer après Kiss. Ils trouvaient que les gars, c'était trop extrême pour eux autres. Leur attitude, que ce soit au niveau pyrotechnique, le sexe, et ainsi de suite. Et il y a le groupe Urgent qui ont mis dehors Kiss pendant leur tournée. Ils ont dit non, il n'y en a pas question. Il y a aussi Savoy Brown. Et un autre groupe, des fois on peut penser, des fois le contraire, mais non, des fois aussi, Corinne, ils sont bien princesses, eux autres. Et aussi le groupe Black Sabbath, lors de la tournée Sabotage. Les gars en pouvaient plus, ils ont dit non, regarde, là, c'est bien trop malade ces gars-là. Là. Dehors, on écoute du Ace. Les guitares. On vient de terminer le disque 1, on s'en va au disque B, chante sur face A, oui, effectivement, disque 2, face A, donc avec Watching You, ouais. Donc, je vous racontais effectivement Black Sabbath lors de la tournée Sabotage. Ben, les gars trippaient trop, là. C'était trop freaky pour eux autres, voir les gars de Kiss. Ils trouvaient ça un peu trop extrême pour eux autres, et puis ils ont dit non, nous, on n'est plus capable, et puis. Tony Iommi, en plus, ça donnait pas vraiment du tout avec les gars de Kiss. C'était pas l'amour, mettons, entre Tony Iommi et Paul et Jane. Donc, c'est ça, ça a été quand même... d'autres groupes n'aimaient pas ça, jouer avec Kiss, parce que c'est ça, là, tu sais... On disait non, 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 mais là, ça n'a pas de bon sens. Là, on les voyait là, vraiment comme un groupe diabolique. Et comme je vous disais, avec le maquillage, le sang qui coule de jeans, c'était vraiment là, tout c'était un groupe qui venait de l'enfer, là, avec des titres en plus comme All Under Hell et ainsi de suite. Donc, on se disait que c'est ça, c'était un bande de malades là, c'est fou là. Et aussi, faut pas oublier la mythologie de Kiss là, dans les années 70 et même dans les années 80. On savait pas du tout de quoi avaient l'air les gars là. C'était caché ça là. Et c'est pas évident aujourd'hui de faire ça. Et même bravo au groupe Ghost dans les années 2010 qui ont réussi pendant longtemps à cacher leur vraie identité. Malheureusement, il y a eu une histoire de justice qui a fait que on a vu la on a vu c'était Tobias qui était chanteur, mais sauf que c'est Tobias Forge, mais sauf que dans les années 70, on n'a jamais été capable de percer le mystère de Kiss, qui étaient vraiment ces gars-là. On faisait attention un petit peu là-dessus aussi. On prenait pas de chance, parce que bon, il y a eu quand même des gens qui ont été proches et des personnalités très connues qui étaient proches de Kiss, des personnes comme Cher, Diana Ross, Cher qui était en couple avec Gene Simmons. Et puis on a réussi à cacher l'identité des gars de Kiss. Fallait le faire. Aujourd'hui, ça aurait été très difficile, tu sais, parce que tout le monde a des téléphones. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas de téléphone, tu sais. Il y a ça aussi. Donc, on écoute encore une fois Watching You. Plusieurs mauvaises langues vont dire que Kiss a fait l'album 100% studio, ce qui est complètement faux. Il y a eu des retouches qu'ils ont faites en studio. Mais comme je vous disais tantôt, la foule, on n'entendait pas assez la foule, on a monté un peu le son de la foule. Également aussi, Paul qui chantait, il renversait le micro puis ça faisait du bruit. Il échappait le micro à terre. Il y avait des petits problèmes un petit peu comme ça. Également aussi, bon, des fois il chantait puis le micro était mal placé pour chanter. Donc on a fait des petites retouches un petit peu comme ça là, mais pas plus. Mais il n'y a pas de concert qui a été fait 100% studio puis on a mis une foule en canne. Ça c'est complètement faux. Un moment très fort de l'album Alive, 100,000 Years. Pourquoi? Parce que c'est une maudite bonne chanson, la basse elle est de mise. Et le très bon, c'est du gros métal qu'il y avait à cette époque-là. Et en plus, un solo de drum légendaire par Peter Criss. On écoute un petit peu. C'est quoi l'histoire de cette pièce-là? C'est... Pour une rare fois, on parle pas de sexe. Non, on parle pas de femmes. Non, on parle pas du diable. Non, on parle d'extraterrestres. C'est un livre qui s'appelle « Il y a 100 000 ans » que Gene Simmons avait lu. Et on racontait qu'il y a 100 000 ans, il y avait des extraterrestres qui sont venus. Et puis, un peu, aujourd'hui, on a l'émission... nos ancêtres, les extraterrestres, ben c'est un petit peu ça, là, dans le style d'Eric Van Dekken, quelque chose comme ça, de Suisse. Donc, c'est un livre qui parle que les extraterrestres étaient venus ici il y a 100 000 ans et qui nous ont tout appris à chanter, à jouer au hockey et ainsi de suite. Donc, lorsque Jane a parlé de cette pièce-là, on parle aussi de la théorie de la relativité d'Einstein. Et lorsque Jane a parlé de ça à Paul, il a dit, on devrait faire une chanson sur la fois que les extraterrestres sont venus de 100 000 ans. Paul le regardait. Comment? Mais là, ils ont ajouté des riffs, ils ont réussi à faire ce chef-d'œuvre. Donc, dans quelques instants, on va entendre un solo de drum légendaire, celui de Peter, qui commence là. Peter Chris, grâce à le drum de Peter. Imaginez, cet album-là a été dans les ventes d'albums au Billboard 200, a atteint la 9e position et a été pendant 110 semaines dedans, pendant 110 semaines au Billboard, donc au-dessus de 2 ans. Et c'est de loin le plus long palmarès de l'histoire de Kiss. Là. Aucun autre album a été aussi longtemps que l'album Alive au Billboard Top 200. Nombre de copies vendues à l'époque, 9 millions. Aux États-Unis, ça a été tout un succès, bien sûr. Ça a été un grand succès dans bien des endroits dans le monde. Mais après les États-Unis, c'est au Canada qu'il y a eu la plus haute position. L'album a atteint la 3e position dans les albums les plus vendus au Canada à cette époque-là. We'll be right back. quand on parle de l'impact de Kiss, hein, faut pas oublier que c'est le groupe qui a sorti le plus d'albums de disques d'or aux États-Unis. 30 albums qui ont été certifiés or aux États-Unis. Aucun autre groupe américain a fait autant, ou artiste américain, a fait autant que Kiss là-dessus. 30 disques d'or, c'est vraiment quelque chose de gros. Et cet album-là, live, est sorti, la date précise, le 15 septembre 1975. Rock and roll! L'importance de Kiss, bien sûr, ils sont au Hall of Fame. L'impact qu'ils ont eu, hein, ils ont inspiré une armée d'artistes, que ce soit des gars de Soundgarden, que ce soit Anthrax et plusieurs autres, là, on pourra en nommer jusqu'à demain matin. Ils ont influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Je voyais une biographie de Luther Edge, qui, lorsqu'il était jeune, ben, même encore aujourd'hui, c'est encore un grand fan de Kiss. Il y a un paquet de monde qui ont été très inspirés de Kiss. Leur vie qui a été inspirée de Kiss aussi, moi le premier. J'aime ce groupe depuis que je suis jeune et ça fait partie du folklore maintenant. Hein? Et aussi MTV qui a certifié étant que Kiss est le 9e plus grand groupe de l'histoire de la musique. Ils sont classés 9e selon MTV. Peter Chris, 100,000 years. Yes, 12 minutes 12, la chanson version live. Maintenant, on va y aller avec une de mes favoris à vie. C'est dans mon top 3 à vie. Black Diamond, qui est une chanson sur les prostituées de New York. Ouais. Donc, Black Diamond sur RadioNostalgie.ca et RadioQuébec.biz. Donc, si vous avez déjà fréquenté une prostituée à New York, dites-vous que cette chanson-là, elle est pour elle. Black Diamond, le diamant noir. Donc, comme je vous dis, souvent des titres, faut pas trop s'y fier parce que c'est très parabole, là, tu sais, la façon de Kiss avait décidé de choisir ça. D'où vient le nom de Kiss, soit-il en passant, ça on ne l'a pas dit. Le nom de Kiss, c'est très simple, on entend, bon, justement, puis le Chris chanter sur Black Diamond, ben c'est un peu de sa faute. C'est que lui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Lips, et puis, c'est ça, et puis là, ben, soir, les gars cherchaient un nom, tu sais, ils se disaient, bon, ben, comment est-ce qu'on devrait s'appeler? Puis lui, il est arrivé en blague, et puis il dit au gars, il dit, ben, dis-moi, j'étais dans le groupe Lips avant, on pourrait appeler ça Kiss. Les gars, ils ont dit, ben oui, on va prendre ça. Là, il était là, non, les gars, je niaisais, là. Non, on prend ce nom-là. Et c'est comme ça est arrivé le nom Kiss. Également aussi, les deux S, on sait que Kiss, les deux S et les S nazis. Donc, on voulait faire plaisir au gouvernement canadien et à Justin Trudeau. Le pays qui honore les nazis. Mais sérieusement, c'est que faut dire que Paul Stanley et Gene Simmons sont deux juifs, OK? Et Ace Crowley, qui est un 100% blanc, tout comme Peter Criss, ben Ace, lui, s'est dit, hey, on pourrait faire ces S-là, on pourrait se faire plus remarquer, et ainsi de suite. Mais lui, il a fait des S nazis, tu sais, je sais pas s'il a pensé aux nazis, là, mais peu importe. Et à un moment donné, ben c'est ça, puis là, c'est Gene Simmons qui il regarde et dit, hey, ben, t'as eu une maudite bonne idée, on prend ça. Donc, les S nazis, ben ça vient d'Ace Crowley, tout simplement. Et les gars, même s'ils sont juifs, ben, ils ont décidé de garder les deux S. Et ce qui est drôle un peu dans tout ça, c'est que, compte tenu que les gars sont maquillés, on connaît pas les vrais visages, et ainsi de suite, on connaît pas les vrais noms. Tu sais, on sait pas, bon, Stanley Yosin et Jane Stein, et ainsi de suite. Non, on sait pas les vrais noms des gars. Donc, on a les noms d'artistes, on sait pas du tout, tu sais. Paul Stanley, Gene Simmons. Mais les gens, les mauvaises langues, ne savaient pas que les deux gars, c'était deux juifs. Donc, on disait que c'était un groupe qui était antisémite. Voyez un peu le contexte, là. Pourquoi que des groupes comme Black Sabbath avaient peur de Kiss? Ben, justement, un peu à cause de ça, parce que il était aussi vu comme un groupe nazi. On traitait vraiment Kiss comme un groupe nazi. C'est la raison pour laquelle c'est très populaire au Canada, en passant. Mais, c'est ça. Donc, on se disait, ce sont des nazis. Mais sauf que les gens ne savaient pas que, dans le groupe, les deux leaders, c'est deux juifs. Ça, c'est la conclusion du côté A du disque 2. Maintenant, on s'en va dans la dernière partie du disque 2, donc le côté B. C'est Ace qu'on entend. Petite anecdote aussi dans l'histoire de Kiss qu'on peut raconter, c'est que Kiss, en 1973, ils font la première partie des Blue Oyster Cult, qui était très populaire hein, dans ce temps-là. Donc, ils font la première partie des Blue Oyster Cult. Et moins de deux ans plus tard, c'est les Blue Oyster Cult qui vont faire la première partie de Kiss. Ce qu'on entend, c'est Rock Bottom. Oh, no. Dommage qu'on n'entend pas assez Rock Bottom en concert, même encore aujourd'hui. C'est une des meilleures chansons de Kiss. Vraiment, là, très bonne chanson. Rock Bottom, la guitare d'Ace Frehley même. Je sais que je suis allé avec Ace, mais c'est vraiment là, c'est là où Ace explose vraiment en tant que... C'est là qu'on reconnaît vraiment Ace et son talent, et on peut pas passer à côté lorsqu'on on entend certaines choses. Il faut dire que cet album-là, ben, c'est le début officiel de la Kiss Mania. La Kiss Mania est née vraiment grâce à l'album Alive. Qui va, le groupe, à partir de là, ils vont dominer la planète. Après ça, c'est la sortie de Destroyer, Love Gun, Rock and Roll Over, Alive 2. Après ça, ils vont sortir une compilation complète des 6 premiers albums studio avec Double Platinum, des albums solo. Et ça continue avec Dynasty, qui change un peu de style par exemple, mais qui vont sortir des tubes, un des plus gros tubes, peut-être le plus gros tube de l'histoire du groupe, la plus connue, qui est bien sûr I Was Made for Loving You. Et là, on a un petit speech de Paul.
And they would tell me there's a lot of you people there that like to drink vodka and orange juice. Yeah. I tell you something, when you're down in the dumps and you need something to bring you up, there's only one thing that's going to do it the way you want it.
Cold Gin, qui est une chanson écrite par Ace Frehley. Il était dans un métro et c'est ça. Et puis, bien sûr, avec un bon petit gin. Et c'est ça, il était dans un métro, ben, dans le métro de New York, dans le fond. Et c'est dans sa tête que les paroles sont venues et qui était inspiré d'un gars qui n'a que son gin pour se garder au chaud. Et après ça, ben, les arrangements de la guitare, ça a été un mélange de Paul et Ace qui ont travaillé ensemble. Ils ont modifié et puis la tonalité de G et a continué un petit peu à monter dans la gamme jusqu'à... Ça s'est finalement terminé par un E. Mais bon, Paul, lui, de son côté, il a suggéré quelques modifications d'arrangement dans la chanson. Et c'est comme ça qu'on a bâti la pièce et le riff de la pièce Cold Gin. Ce qui est inusité un peu, c'est que c'est chanté par Gene Sammons, d'un gars qui n'a jamais, jamais, jamais pris de drogue et n'a jamais bu. C'est ça qui est capoté. Gene n'a jamais bu et n'avait jamais vu Gene Sammons pacter parce qu'il n'a jamais bu de sa vie et il n'a jamais pris de drogue de sa vie. Lui, comme il affirme, il dit « Ma seule dépendance, c'est le sexe. » Lui, bon, il déclare qu'il a couché avec au-dessus de 4000 femmes. Autre chose aussi sur cette chanson, vous voyez, tu sais, l'impact de Kiss, on en parlait tantôt, Anthrax, peu importe, là, j'avais Soundgarden et Anthrax en tête et plusieurs autres, là, une armée de groupes qui sont inspirés de Kiss. Et aussi Diamondback, hein, faut pas oublier Darren Abbott. Diamondback, le guitariste de Pantera, ben, lui aussi, hein, ça c'était sa dernière volonté, était qu'on aille la pièce Cold Gin à ses funérailles. Il a dit, si un jour il m'arrive de quoi, si je meurs, je veux que Cold Jim joue à mes funérailles, je veux que ce soit cette chanson-là, parce que c'était la chanson de sa vie pour Diamondback. Jean, maintenant, ben on s'en va à un moment très fort de l'album Live. Oui, qui va devenir un des hymnes de Kiss. C'est pas l'hymne de Kiss, hein, bien sûr. On parle de Rock and Roll All Night, qui est co-écrit par Paul Stanley et Gene Simmons, et qui est devenu vraiment la chanson signature du groupe à la fin des concerts. On voulait avoir une chanson où on pouvait avoir un cri de ralliement par le groupe qui allait crier, également aussi par les fans. Donc, qu'on voulait que tout le monde crie Rock and Roll All Night and Party Every Day. Même si Gene Simmons ne boit pas d'alcool, Paul expliquait un petit peu là-dessus, justement pour Rock and Roll All Night. Comme il expliquait, il a dit, t'as pas besoin d'avoir de la boisson pour avoir du fun dans la vie. Si t'es bien, si tu fais quelque chose, tu fais un sport, t'es heureux, ben c'est ça le party. Le party, c'est d'être heureux dans le fond, là, tu sais. Et c'est ce qu'on a voulu lancer dans cette chanson-là, qui va devenir un hymne de Kiss, et qui sera aussi un single, hein, et qui va se vendre énormément, contrairement à la version originale qu'on avait de Dress Up to Kill, là, qui n'a jamais été un single. Mais la version Alive va devenir le seul single de l'album, soit dit en passant, de l'album Alive. Donc, c'est ça, on voulait avoir un genre de cri de ralliement et on a frappé juste avec Rock and Roll All Night. We'll be right back. Donc, effectivement, Rock and Roll All Night, qui est toujours la chanson qui termine les concerts depuis plusieurs années maintenant. À part live, c'est pas dans, à live, c'est pas elle qui termine. Et c'est plutôt Let Me Go Rock and Roll. Let Me Go Rock and Roll, qui est une pièce que je considère très sous-estimée. Qui moi, pour moi, Let Me Go Rock and Roll mérite autant de place que les grands classiques de Kiss, les Detroit Rock City, les Death, les I Was Made, les Unholy, les Kill Up, les Psycho Circus, Rock and Roll All Night et tout le reste. Les Love Run, on pourrait en nommer encore, mais bon, ça n'a pas le prestige, autrement dit, de tous ces grands classiques-là, je trouve. Et ça, c'est ça que je trouve dommage. Hein. Elle est des fois boudée, c'est en souhaitant que dans la dernière tournée, je crois qu'ils vont la jouer, par exemple, là, mais ça sera vérifié. Mais habituellement, ils la jouent. Mais c'est ça, mais c'est pas... Ça aurait dû être un grand classique de la musique. Et malheureusement, ça va... Pourtant, c'est tellement bon. Moi, c'est une de mes préférées. Meilleure version live que j'ai entendue de toute ma vie, c'est cette chanson-là, ce qu'on entend en ce moment. Let Me Go Rock and Roll de l'album Alive. C'est incroyable. On entend Jane avec son petit solo de bass. Peter avec un petit coup de drum. Ace, la guitare de Ace, elle est incroyable. Là, c'est Paul qui en... Le rythme qu'on entend en arrière, le rythme guitare, là, c'est vraiment pas... Ça, c'est... Hey. Écoutez bien du grand Gene Simmons avec sa basse et avec un petit mélange de Peter Criss et du Ace! Solo de basse de Gene. Ils ont prouvé avec cet album-là qu'ils étaient quatre grands musiciens. Hein? Comme si on peut dire dans le sport, un match d'étoiles, ben, c'était comme quatre joueurs d'étoiles qui étaient ensemble. Là. Les quatre, ils ont démontré qu'ils étaient de très très grands musiciens. Malgré que les langues sales vont dire sur cet album-là, c'est vraiment, il fallait vraiment, fallait être dans le contexte des années 70 à cette époque-là. Là. Ils ont innové la musique avec cet album-là. Et c'est un album qui va influencer vraiment une armée de jeunes qui vont arriver. Des gars comme Eddie Van Halen va être inspiré de Kiss, c'est son band préféré, et plusieurs autres. Là, comme je vous disais, il y a une armée de guitaristes, d'artistes qui existent. Et des fans aussi, je veux pas, c'est un coup de millions et de millions et de centaines de millions. Là. Justement, on écoute un petit peu de Ace. Wow! Quel concert! Ah! Le seul regret que j'ai, là, c'est d'avoir été trop jeune pour avoir participé, d'avoir vu un de ces concerts-là dans les années 70. Ça, tu sais, malgré que j'étais jeune, mais c'était dans les années 80, c'était avec Eric Carr à la batterie. Mais voir l'original comme ça, lorsque les gars étaient en forme et ainsi de suite, là, à cette époque-là, là, ça, c'est quelque chose que j'aurais tellement aimé voir. À chaque fois que je vois des vidéos, par exemple, sur des réseaux sociaux, puis... Même si c'est une chanson de Kiss dans les années 70, je m'arrête puis il n'y a plus rien qui marche autour de moi. Là, là c'est la courte vidéo que je vais regarder. C'est tellement... Il n'y a pas de mots à décrire, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez aimé le spécial Kiss Alive. Oui, effectivement. On l'avait fait l'an passé ou v'là 2 ans. Mais comme je vous disais, c'était les débuts de RadioNostalgie.ca. Et le son était tellement mauvais. Et puis, là, on espérait, il n'y aura pas de problème. On est sur Biz en plus. Donc, on est sûr que le son va être bon. Donc, mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission et envoyez vos commentaires. Il n'y a pas de problème. J'espère que vous n'avez appris en masse sur Kiss et sur cet album-là aussi. Hein. C'était surtout le seul but. Et puis, c'est ça. Kiss Alive. Yeah, rock and roll all night and party every day.